Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Émilie Bourgoin.
Bonjour Carole.
Merci infiniment d'avoir rejoint le micro des Audacieuses. Alors, première question un petit peu rituelle, avez-vous le sentiment, Émilie, d'être une audacieuse ?
Oui, complètement. Je le dis avec aplomb. Non, tout d'abord parce que je crois que j'ai toujours cherché l'audace, j'ai toujours osé, j'ai toujours essayé d'aller au-delà des frontières. Et puis avec le temps, au départ, ça se faisait un petit peu naturellement. Et puis avec le temps, je crois que j'ai compris que c'était une de mes forces et que c'était quelque chose qui permettait d'emmener avec moi d'autres personnes autour de moi et qu'on attendait de moi presque d'aller dans ce sens-là. Je dirais juste aussi que c'est aussi peut-être parce que je suis une défricheuse. J'initie les projets. Une fois que le projet roule, ça m'intéresse beaucoup moins. Ce que j'aime, c'est aller faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant.
Vous aimez soulever les montagnes,
voilà,
en fait.
C'est ça.
C'est ça, hein, on va dire. Alors, vous savez que vous êtes atypique, je le dis assez rarement, parce que très souvent, et je pense que c'est lié au fait d'être une femme, on va le dire comme ça, c'est un petit peu empirique comme analyse, mais on se lâche. Très souvent, quand je pose la question, vraiment, on me dit « Ah mais non, mais je ne suis pas sûre, mais en fait, oui, peut-être, mais bon, finalement, oui, vous avez peut-être raison. » Voilà. Je crois que sur la totalité des audacieuses que j'ai rencontrées, donc on approche la cinquantaine, j'ai dû en avoir 3 qui m'ont dit d'emblée « Ben oui, je crois que je suis une audacieuse. » Donc voilà, vous êtes peut-être la 3e.
Ah moi, c'est même pas « je crois », c'est « je suis sûre ».
Ah non, mais ça, c'est formidable. Alors, donc, une audacieuse, une défricheuse. Alors, qu'avez-vous défriché ? Rentrons directement dans le vif du sujet.
Bon, ben, j'ai défriché sur pas mal de terrain. On va dire que j'ai commencé mon parcours, je devais faire une école de mode au départ, donc déjà pas du tout ce que j'ai fait finalement. Et puis finalement, j'ai commencé déjà en défrichant un petit peu les nouvelles technologies, ce qu'on appelait les nouvelles technologies à l'époque.
Une femme de la tech, donc.
Parce que quand j'ai commencé mes études, c'était les tout débuts d'Internet et j'ai fait mon mémoire sur Internet. Et je suis même partie au Canada pour aller apprendre ce qu'étaient ces nouvelles technologies, parce qu'en France, on n'était pas encore très avancée. Donc déjà, j'étais attirée par cette nouveauté de ce nouveau monde de la tech et j'ai commencé comme ça.
C'était il y a une vingtaine d'années.
Oui, c'est ça.
Il y a une vingtaine d'années. Puisque vous avez une petite quarantaine d'années.
Oui, c'est ça.
Si on voit les choses un petit peu à la louche, c'est un petit peu comme ça. D'accord.
C'est ça, exactement. Très bien. Donc j'ai commencé mon parcours comme ça et puis ensuite, j'ai eu envie de partir au bout du monde et je suis partie vivre 4 ans en Australie où j'ai travaillé essentiellement dans l'événementiel et notamment à l'Alliance française. Et voilà, bon, je vais passer un petit peu rapidement. Je suis rentrée en France, mariée avec un enfant. Et puis, j'ai travaillé dans le secteur privé. Et c'est à la suite de ces quelques années dans le secteur privé que je me suis rendue compte, aussi en étant devenue maman, que c'était pas ce que j'avais envie de faire et c'était pas là que j'avais envie de mettre mon énergie et mes talents.
Pourquoi ?
Parce que je crois que j'avais envie d'avoir du temps pour m'occuper de mes enfants. J'avais pas envie d'être dans un système qui prône rentabilité, chiffres, etc. Et que en plus, alors j'avais bien trouvé ma place dans ce monde de l'entreprise.
Vous faisiez quoi précisément ?
J'étais chef de projet digital,
d'accord.
Communication digitale, marketing digital. Et puis j'ai eu une équipe à gérer. Et puis en fait, ce qui a un petit peu précipité les choses, c'est qu'en revenant d'un congé mat, on m'a un petit peu mis au placard parce que j'avais pris un congé maternité un peu trop grand, parce que j'étais revenue au 4-5e et ça n'a pas beaucoup plu. Et c'est en voyant que ben, j'étais pas vraiment en adéquation avec ces valeurs-là que j'ai décidé de changer de parcours. Voilà, donc ça a été un petit peu un grand moment, on va dire, dans
ce que
vie.
Ce que vous me racontez là, je l'entends malheureusement souvent. J'ai l'impression que vous êtes un peu précurseur même. Alors non pas sur la mise au placard, parce que celle-là, elle est malheureusement courante, efficiente, depuis de nombreuses décennies, je connais très bien le sujet. Mais votre recherche de sens, et puis le fait d'oser dire ben non, ça ne me convient pas, je claque la porte, je m'en vais, je fais autre chose. Ça, c'est peut-être quelque chose de plus récent. Mais là encore, c'est une analyse toute empirique. Alors racontez ce que vous avez fait après la vie en entreprise.
Alors, c'est vrai que je devrais presque les remercier, en fait, de m'avoir fait vivre ça, parce que j'ai envie de dire qu'il faut saisir ces opportunités pour justement essayer de se rapprocher de soi-même. Quand on s'est écrit, vous m'avez demandé ce que c'était que l'audace. Alors, j'en profite pour le dire là, même si c'est peut-être
allez-y,
pas le bon timing. Allez-y. Tant pis. Je suis audacieuse. Non, parce qu'en fait, j'ai envie de dire que l'audace, c'est ça. C'est d'aller... c'est oser aller à la rencontre de qui on est, de vivre en harmonie avec soi-même, d'aller à la rencontre de ses talents. Et je pense très profondément que c'est en faisant rayonner ces talents-là qu'on va changer le monde. Et que c'est ça qui va avoir un impact. Donc je dirais que pendant ces quelques années, après cette rupture de vie professionnelle, j'ai cherché à aller à la rencontre déjà de qui j'étais moi. Et ça m'a pris pas mal de temps. Et puis je pense que ça va m'en prendre encore pour
toute la
vie.
Vous allez nous raconter jusqu'où vous êtes allée. Mais moi j'ai une question. Est-ce que vous avez eu peur de rencontrer la peur ?
Non. Non, je dirais que j'ai pas peur. Et je pense
vous êtes inconsciente ?
Non, pas
téméraire.
Forcément. Peut-être un petit peu inconsciente, avec un petit grain de folie. Mais je suis pas quelqu'un qui a peur et je dirais que je vais foncer plutôt que et vérifier, voir après comment ça s'est passé, plutôt que de beaucoup réfléchir avant de faire les choses. Donc, c'est
donc
ça
vous écoutez votre cœur, vos impulsions,
ouais, c'est ça,
vous êtes une fonceuse.
Voilà.
Et puis après, vous voyez si ça passe ou ça casse,
voilà.
En fait. C'est
mais
un
on
peu
y
ça.
Va.
Et votre entourage, il en pense quoi de ce tempérament ? Est-ce qu'il vous modère ou est-ce qu'il vous soutient ou il vous soutient tout en vous modérant ?
Un peu les deux, exactement. Je pense que j'ai su aussi m'entourer de personnes qui étaient mes opposées. Pour ça, tout d'abord mon mari, qui est une grande force tranquille et qui, du coup, me permet de modérer un petit peu ses ardeurs. Et puis mes amis, tout simplement, avec qui je partage aussi ça et qui peuvent aussi m'apporter ce complément. Et mes enfants.
Alors, racontez-nous maintenant, Émilie, la belle histoire qui est la vôtre, celle d'une nouvelle vie, en fait. Hein, je crois qu'on peut le lire comme ça. Et vous avez pris donc les manettes de cette nouvelle vie, donc racontez-nous comment.
Alors, tout a commencé avec une maman de 3 enfants qui se promène dans son quartier dans le 20e et qui se sent pas toujours très bien pour prendre le goûter, pour sortir de l'école, pour rester dans la rue. Avec les petits pas d'enfants, on peut pas toujours aller dans un parc parce que c'est pas tout près.
Et pourquoi elle se sent pas bien ?
Avec une sensation d'insécurité, une sensation de pas pouvoir se poser, pas de banc, un quartier sale, et puis du coup de devoir rentrer vite à la maison, de pas pouvoir rester discuter, voilà. Donc ça a été vraiment au départ un sentiment de maman, de se dire, je me sens pas forcément bien là et j'aurais envie de changer les choses. Est-ce que je peux faire quelque chose ?
C'était une question de quartier selon vous ou...
Alors peut-être pas de quartier parce que je me sens très bien dans ce quartier depuis toujours et j'ai une sensation d'être en face de personnes qui elles-mêmes se sentent plutôt bien, des gens qui ont été à l'écoute du métier qu'ils avaient envie de faire, de personnes qui, beaucoup d'artistes. Et c'est vrai qu'avec une espèce de facilité de contact, de ne pas se prendre de haut, quelque chose de très accessible. Donc ça, sur ce point-là, je me suis toujours sentie très bien avec les commerçants, etc. Mais c'était plutôt une question d'espace public, de saleté, de bien-être, de cadre de vie, on va dire. Et puis, peut-être aussi, en même temps, un sentiment de se dire ras-le-bol d'entendre toujours tout le monde râler contre les pouvoirs publics, contre la mairie, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas par faire quelque chose, nous ? Est-ce que moi, je ne peux pas faire quelque chose ? Et c'est tombé en même temps que le permis de végétaliser, qui est arrivé à ce moment-là à Paris. Et moi, j'y ai vu une opportunité. Alors, c'est peut-être mon parcours d'événementiel, mais j'ai vu une opportunité parce que je me suis dit, d'habitude, tout ce qu'on peut faire sur l'espace public, c'est avec des règles, c'est contraint, on se prend des amendes. Enfin, le rapport à l'espace public, il n'est pas toujours simple.
C'est vrai.
Et de se dire que là, on avait l'opportunité très facilement et très simplement de pouvoir agir, de faire quelque chose, d'avoir un morceau d'espace public qui nous est alloué pendant une durée indéterminée, sur lequel on pouvait s'exprimer et... Voilà, en un clic sur Internet, on avait ce permis de végétaliser.
Cette possibilité. Donc comment vous y êtes prise? Est-ce que vous étiez seule déjà dans cette aventure? Vous en avez parlé avant? Vous avez partagé avec d'autres personnes?
Alors, au départ, j'étais complètement seule. Mais en fait, c'est vrai qu'en même temps, comme j'avais un peu de temps, je passais du temps dans le quartier, j'ai commencé à discuter un petit peu avec tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'artistes et de gens qui avaient des actualités. Et j'ai eu envie aussi, en parallèle, de... créer un espace où on pourrait être au courant de ces actualités. Et du coup, j'ai commencé à créer un groupe Facebook qui s'appelle Village Jourdain, grâce aussi à une amie journaliste avec qui on a monté ça ensemble. Et on a créé ce groupe Facebook qui a tout de suite pris une ampleur pas possible et donc qui m'a permis aussi d'avoir une communauté sur laquelle j'ai pu m'appuyer pour proposer ces projet de revitalisation de quartier. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à une première réunion à la mairie et suite à ça, je me suis rendu compte qu'il était possible de faire des choses et j'ai du coup eu un rendez-vous qui m'a permis de donner mon point de vue, mon avis. Et j'ai proposé une quinzaine ou une vingtaine de points pour revaloriser cet espace. Alors évidemment, ça passait par des choses complètement impossibles, comme la construction d'une ludothèque ou d'un petit jardin public ou des choses comme ça.
C'était très large, oui.
Mais il y avait des choses qui étaient envisageables, des idées qui pouvaient être portées. Comme là, par exemple, de faire une fête de quartier. Donc, on a imaginé une fête de quartier qu'on a mis sur pied, qui a duré 3 jours. Il y a plus de 250 artistes qui sont descendus de chez eux pour nous faire profiter de leur talent complètement gratuitement. On a mis en place des systèmes de troc, d'échange entre les bars des quartiers et les artistes. On a fait venir des associations qui ont permis de faire des animations. Ça a permis aussi à beaucoup de gens du quartier de s'impliquer. J'ai senti une grande solitude.
Ça demandait beaucoup beaucoup de temps, la préparation de cette rencontre, de ce temps précisément. C'était quoi, 6 mois de discussion en amont? Comment ça s'est passé?
Moi, je dirais peut-être 4 mois. Avec des réunions où le principe, c'était de partir des talents de chacun.
D'accord.
Donc chacun pouvait nous dire ce qu'ils avaient envie de faire, même s'ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire, on est parti de ça. Et il y en a qui sont arrivés en disant, moi, je sais, si je reste chez moi, je vais faire une bêtise, j'ai besoin de m'occuper, je suis seule. Des femmes battues qui n'osaient plus sortir de chez elles, etc. C'est-à-dire, ok, bah, qu'est-ce que t'aimes faire, toi? Qu'est-ce qui te fait bouger? Et puis, on est parti de ça et on a créé une fête avec ça.
D'accord, donc, alors voilà. Une fête en vrai, en présentiel.
Ouais,
les discussions, puisque bon, j'imagine qu'il y a eu un peu de Covid là au milieu, ou c'était
avant? Ah non, c'était
COVID.
Avant.
C'était avant. Donc en fait, les discussions ont eu lieu, comme on dit de nos jours, en présentiel.
Ah, c'est ça, exactement.
Voilà.
Ouais, tout à fait.
J'espère qu'un jour, on ne fera plus le distinguo, mais en tout cas, les gens se sont rencontrés, vous avez vu qu'il y avait des besoins et des demandes diverses, vous avez parlé de solitude, je vous ai un petit peu coupé la parole sur ce point qui est important. Parlez-en, je vous en prie.
Oui, oui, tout à fait. En fait, je pense qu'on est tous dans nos appartements parisiens, en tout cas, on a même du mal à parler à son voisin, on est très isolé, beaucoup de gens sont seuls, séparés ou pas forcément. Et c'est vrai que, par le groupe Facebook que j'ai mis en place, je me rends compte du besoin d'échanger, parce qu'en fait, il y a plus de 5000 posts, commentaires par jour sur le site, donc c'est
énorme,
impressionnant.
Énorme.
Et en fait, pour le moindre sujet, les gens discutent. Donc en fait, déjà, il y avait cet exemple-là. Et puis, sur place, de s'apercevoir que les gens venaient parce qu'en fait, ils avaient envie de se retrouver. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui s'est prolongé, notamment sur un autre projet dont je pourrais reparler tout à l'heure, le Locavore. Mais voilà, c'est quelque chose qui... Et en fait, en leur proposant un projet, ça leur a donné l'envie de s'investir, d'en faire partie, de se retrouver sur ces réunions qui étaient mensuelles au départ, et de pouvoir apporter ce qu'ils savaient faire. Et voilà.
Qu'est-ce que vous avez fait ensemble, au-delà ou en plus de ces rencontres, de ces temps de rencontres?
Alors, en fait, cette fête, elle a été prolongée. Enfin, elle a eu lieu 3 ans de suite.
Oui.
Ça a été un peu pour moi un déclencheur pour la suite, dont on va reparler. Et puis, en parallèle de la fête, il y a cet esprit de végétalisation qui a continué de se mettre en place et qui a permis tout au long de l'année de continuer à fédérer cette équipe de personnes.
Alors, la végétalisation, comment ça se passe? Comment on la voit? Où on la voit? Racontez-nous tout.
Voilà, donc bon, c'est assez simple. Il y a eu, au départ, la mairie de Paris a proposé sur des espaces de pieds d'arbres qui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand un arbre est malade, on le déterre, on en plante un nouveau. Et pour donner un peu plus de chance à ces jeunes arbres de pousser, on leur prépare une fosse de 3 mètres par 3 mètres de terre végétale fraîche. Et ces zones de terre végétale, malheureusement, elles ne sont ni entretenues par la propreté de la ville, ni par les parcs et jardins. Donc c'était des zones un peu de no man's land. Et la ville a proposé que les habitants s'en occupent et en fassent de petits potagers. Un, pour permettre à la terre d'être plutôt nourrie par les plantes et à l'arbre de mieux vivre. Et à la fois, pour permettre aux Parisiens de s'investir sur cet espace. Donc, c'est très simple. Il suffit d'aller demander un permis en quelques clics sur le site de la mairie de Paris. Et ensuite, on peut planter à
on
peu près.
On sort avec ses râteaux, ses plantes et ses graines
exactement.
Et on peut y aller.
Et on peut y aller.
D'accord.
Et c'est comme ça que de 1 premier pied d'arbre. Il y en a eu 2, 3, 10 et aujourd'hui j'en ai une quarantaine.
Ouais.
On est à peu près une équipe de 500 jardiniers urbains, j'ai envie de dire, habitants du quartier à se retrouver. Alors évidemment pas tous ensemble, mais ça, les 500, je dirais que c'est sur les 5-6 années passées.
Mais vous arrivez à vous coordonner ?
Alors on se coordonne par petits groupes. Hein, c'est-à-dire que il y en a un petit noyau où on se retrouve assez fréquemment et puis après il y a plus ou moins des gens de passage qui viennent, qui reste, etc. On a des outils de communication et on s'organise, on a un planning d'arrosage sur l'été. Voilà, globalement, on prend soin. Je dirais que l'objectif, c'est pas d'en faire des jardins qui font la compétition avec les parcs et jardins de Paris, c'est plus de créer du lien, de se retrouver et quelque chose qui est devenu presque, je dirais, addictif pour moi, c'est de me retrouver dans la rue, posée en tant que femme, à faire une action utile et de pouvoir avoir ces personnes de la rue qui s'arrêtent et qui discutent. Donc, il y a un peu de tout. Il y a majoritairement des gens qui sont très contents de ce qu'on fait. Mais on a des gens qui viennent nous raconter leur vie. Il y a des gens qui viennent nous donner des conseils. « Ah non, moi, mon père était agriculteur, c'est pas comme ça qu'on creuse. Et si vous mettiez ça ?» Des gens qui viennent nous apporter des plantes. Des gens qui... Voilà. Et j'ai trouvé que ce contact humain, ce lien social, très puissant.
Bien sûr.
Et voilà. Et j'ai envie de dire que c'est presque un prétexte. La végétalisation, c'est un prétexte pour se retrouver en ville et peut-être même encore plus en tant que femme.
Alors, voilà. Vous avez démarré quand ?
Alors ça, j'ai démarré en 2016.
D'accord, donc ça fait 6 ans quasiment,
ouais, voilà, six ans.
On entame la 6e année. Votre bilan par rapport à ça, c'est quoi ? Et vos perspectives aussi ?
Oui, tout à fait. Alors, mon bilan, c'est... que jamais je ne regretterai cette aventure et que je crois que tous les gens qui y ont participé ont pu s'en se ressourcer grâce à ça, en tout cas. Je le conseille à mon bilan, c'est que je le conseille largement autour de moi et qu'aujourd'hui, ça a été un bilan très positif puisque j'ai décidé de réorienter ma carrière professionnelle et de mettre mes compétences au service de cette végétalisation participative, tant pour la nature en ville que pour le lien social. Et donc, j'ai créé ma structure qui s'appelle Liane de Rue. Donc, je pense que c'est un bilan assez
plutôt
intéressant,
sympathique,
plutôt
bien sûr,
sympathique.
Bien sûr.
Je sais plus quelle était la deuxième
question. La question, c'était vos perspectives.
Et
tout
mes perspectives,
simplement,
bah voilà, on y va, on y va.
Allons-y.
Les perspectives, c'est de continuer à pouvoir témoigner de cette expérience, comme je le fais là aujourd'hui et j'en suis ravie, de pouvoir donner l'envie et l'impulsion à d'autres habitants de n'importe quelle ville, à Paris, en France, dans le monde, de se mettre à s'intéresser à cet espace public qui est devant chez eux. On peut faire de toutes petites choses, on peut commencer simplement à déjà connaître le nom des arbres qui nous entourent, on peut repérer les plantes sauvages qui poussent partout en ville et qu'on oublie bien souvent parce qu'elles sont minuscules et qu'on ne les voit plus. Les perspectives d'avenir, c'est de pouvoir accompagner tous les acteurs qui...
L'école, éventuellement.
Les écoles. Alors, je le fais
tout
à fait avec les écoles primaires, les collèges, de pouvoir les accompagner sur ce sujet. Les entreprises, qui sont des acteurs importants et qui ont bien souvent cette envie de pouvoir participer, d'avoir de l'impact, la RSE, etc. C'est un sujet large, mais qui ne savent pas forcément toujours comment faire. Donc, moi, j'ai accompagné plusieurs entreprises et je continue de le faire en leur faisant créer des mini-jardins de rue qui vont profiter à d'autres. Donc, ça, c'est quand même un geste incroyable. Ça va être aussi de faire des conférences pour des collectivités, des villes qui auraient envie d'inspirer leurs habitants sur ce sujet-là. Il y a de plus en plus de villes qui mettent en place des dispositifs de végétalisation participative et citoyenne. Donc voilà, c'est mon travail au quotidien.
Donc le champ est vaste.
Exactement.
Donc ça, c'est votre travail aujourd'hui dans le cadre de votre société, on peut l'appeler comme ça. Est-ce que
tout
vous avez
fait.
Aujourd'hui des salariés? Elle ressemble à quoi, cette structure?
Alors non, je n'ai pas de salariés, c'est un choix que j'ai fait.
J'ai
été d'ailleurs lauréate du programme Les Audacieuses l'année dernière à La Ruche, et pour pouvoir justement donner un peu plus d'ampleur à cette entreprise. Mais j'ai décidé que je n'allais pas m'étendre pour plusieurs raisons, parce que déjà, j'ai plusieurs activités en parallèle et comme je vous l'ai dit, j'aime défricher, donc j'ai encore beaucoup à défricher, donc voilà, je préfère ne pas me cibler sur un seul projet. J'ai d'autres projets, d'autres envies. Et puis que j'aime bien aussi la possibilité d'être flexible et de pouvoir faire appel à des partenaires, des prestataires que je connais bien, avec qui je travaille au quotidien, et de pouvoir m'adapter en fonction des projets. Donc pour l'instant, j'en suis là. Je ne sais pas, peut-être dans l'avenir.
De la souplesse. Est-ce que vous avez fait une levée de fonds? Je vous pose la question de façon un peu taquine, parce que c'est le grand truc, ça.
Oui,
alors, vous avez levé des fonds, Émilie?
Non, je n'ai pas levé de fonds. J'y ai fortement réfléchi, mais je n'ai pas levé de fonds. En fait, pour être tout à fait honnête, ça demande... mon mari est en train de lever des fonds aujourd'hui même.
Et donc, c'est également un start-upper?
Exactement, c'est un start-upper. Alors, fois 10. Mais c'est vrai que ça demande d'autres compétences. Et je pense que mes compétences à moi sont plus utilisées à défricher sur plusieurs projets plutôt que de monter une start-up comme on l'entend aujourd'hui en levant des fonds. C'est pas mon profil. Et je pense juste que ça, c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise aujourd'hui et je préfère mettre mon énergie.
Il y a peut-être des choses à inventer aussi.
Et il y a d'autres choses à inventer. On est en train d'inventer un nouveau métier d'ailleurs.
Et oui, tout à fait. Ouais. Alors tout à l'heure, vous avez fait une allusion à l'événementiel. Vous avez eu une période événementielle dans votre vie professionnelle?
Ah oui, c'est intéressant comme question, parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi instinctivement depuis toujours. Et quand j'ai fait une école de communication, relations publiques, etc., j'ai fait beaucoup d'événementiel par ce biais-là, dans les stages, etc. Mais j'ai jamais vraiment cherché à gagner de l'argent, parce que je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui est tellement naturel chez moi que j'aime énormément organiser des événements et je le fais tous les ans pratiquement pour des causes assez différentes. J'ai organisé le Girls Tech Day avec le CNFF, qui est le Conseil National des Femmes Françaises par exemple, qui est un événement pour les collégiennes et c'est autour du numérique. J'ai organisé, quand j'étais en Australie, le festival du film français. J'ai organisé...
Rien ne vous arrête, vous.
J'ai participé au premier festival du jeu vidéo, au festival de pêche. J'ai fait énormément d'événementiel. Et les fêtes du quartier, ça en était. Mais au final, je préfère le garder comme un outil au service des projets et des causes que j'aurais envie de soutenir comme ça, au fil de l'eau et des années.
Alors, je vais vous poser une dernière question. Quand on demande à vos enfants quelle est la profession de leur maman, qu'est-ce qu'ils répondent?
C'est une très bonne question et j'en sais rien. Il faudrait que je leur demande ce soir en rentrant.
Ils ont quel âge, vos enfants?
Ils ont 14, 11 et 9.
Ah oui, donc je dirais que le terreau est quand même fertile. Je suis sûre qu'il doit y avoir des bonnes réponses là, qui vont poindre.
Ouais, alors ils disent que je mets de la nature un peu partout. Ça, ils sont très conscients de ça. Là, en ce moment, comme je travaille aussi en tant que consultante sur les dynamiques alimentaires responsables, ça les concerne parce que c'est pour que les cantines mangent mieux sur le territoire en France. Donc ça, je pense que c'est des choses aussi qui leur parlent. Mais ils savent très bien que mon premier métier, c'est d'être maman et ils en sont bien conscients et je crois qu'ils pourraient répondre aussi cette réponse-là.
Bien conscients et sans doute heureux, mais bon, si on a l'occasion de se recroiser un jour, j'aimerais bien avoir la réponse.
Je vous l'enverrai ce soir, je leur demanderai.
Avec grand plaisir, je suis preneuse. Ma dernière question, parce que j'en ai toujours une dernière, malgré tout.
Non, mais...
Votre définition de l'audace est... Qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes en général qui se trouvent parfois un petit peu coincées dans des systèmes, n'osant pas trop? Voilà. On l'a, cette semaine, c'est la semaine de la femme, hein, donc je me permets cette question en plus.
Bien sûr, je vous écoute. Avec plaisir, c'est un sujet qui me passionne, la femme. Donc, comme je le disais, l'audace pour moi, c'est vraiment d'oser s'écouter. Oser s'écouter de qui on est, quelles sont nos vraies compétences et talents. Moi, je suis partie de là aussi. J'ai fait un petit travail sur quelles étaient ces compétences profondes que j'avais en moi. Je dirais que si, le conseil que j'ai envie de donner, c'est allez-y, foncez, osez, allez au-delà, vivez vos rêves, parce que la vie est trop courte et qu'il ne faut pas avoir de regrets. Allez-y, puis si ça ne marche pas, il sera toujours temps de revenir et d'essayer autre chose. Mais si on n'essaye pas, on ne saura pas.
Voilà, puis on peut faire des petits pas de côté aussi, on peut s'essayer un petit peu dans la vie associative. Je crois que vous avez aussi eu cette période, hein, donc aller tâter un petit peu le terrain, oser pousser des portes, et qui vont nous donner un petit appel d'air et qui vont nous permettre d'aller plus loin. En tout cas, merci pour ce très beau témoignage. Je ne vais pas dire bel échange parce que ce serait un peu de la forfanterie. Donc, merci pour votre très beau témoignage. Merci Émilie Bourgoin, je le redis, de Liane de Rue. J'imagine que vous avez un très joli site internet, très inspirant, sur lequel on va vous retrouver ainsi que toutes vos activités. Merci pour cette belle définition de l'audace et puis surtout, à bientôt.
Merci beaucoup Carole, à très bientôt.
À bientôt. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.